Alors, donc aujourd'hui, nous allons continuer la parole que j'ai apportée il y a 2 semaines. C'était sur change ton atmosphère spirituelle et attire la faveur de Dieu. Donc, je reprends le thème que j'ai apporté il y a 2 semaines. Je fais une première partie et la suite, je la fais aujourd'hui. C'était change ton atmosphère spirituelle et attire la faveur de Dieu. Pour faire un petit résumé rapidement, donc la semaine dernière, je me suis appuyé sur quelques passages, particulièrement sur Hébreux chapitre 1, verset 1, verset 3, où on parle de la foi, mais aussi on nous fait comprendre que en fait les choses visibles que nous voyons au verset 3 est fait des choses invisibles, et que tout ce que nous voyons aujourd'hui qui a été créé, nous par la foi nous reconnaissons que ces choses ont été créées par Dieu. Et nous reconnaissons donc que les choses visibles que nous voyons ont été créées à partir des choses invisibles. Et qu'effectivement, les choses invisibles ont une influence sur les choses visibles. Et on parlait aussi de l'action de Dieu dans nos vies. On a rappelé qu'effectivement, Dieu est présent dans nos vies, puisqu'il déclare que Dieu est au milieu de nous. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et en même temps, on a dit que l'action de Dieu, malgré qu'il était présent au milieu de nous, son action dépendait de nous, dépend de l'atmosphère que nous créons, l'atmosphère favorable à l'action de Dieu, ou une atmosphère qui n'est pas du tout favorable à l'action de Dieu. Mais que nous étions maîtres dans ce cas-là, parce que Dieu nous a donné le pouvoir et l'autorité de changer l'atmosphère qui nous entoure. Nous avons vu ensemble un troisième point, c'est qu'il y a des éléments qui font que l'atmosphère spirituelle soit favorable ou défavorable à l'action de Dieu, et que ces éléments sont de notre fait, c'est-à-dire ce que nous pouvons toucher, sentir, ce que nous pouvons voir, ce que nous pouvons parler, nos paroles, voilà les endroits où nous sommes, les personnes avec qui on est, toutes ces choses influencent notre atmosphère spirituelle. Et que si notre atmosphère spirituelle est influencée de l'extérieur, elle influence notre intérieur, elle influence notre caractère, elle influence nos actions, elle influence notre manière de penser, elle influence tout au final. Donc l'extérieur vient et nous influence. Alors il y a l'atmosphère extérieure qui vient et influence notre atmosphère intérieure. Alléluia. Voilà, on s'est arrêté là. Alors aujourd'hui, nous allons continuer. La semaine dernière, Élise a apporté la parole et elle a parlé, son sujet c'était « Mon œil te voit ». Donc elle a parlé de Dieu, Dieu qui nous voit, l'œil de Dieu qui nous voit, l'œil de Dieu qui nous connaît. Et elle a dit que même dans la foule, quand tu es là assis, Dieu te voit. Dieu connaît ton nom, Dieu connaît ton parcours, Dieu connaît ta vie, Dieu connaît comment tu t'es réveillé ce matin. Dieu connaît tes pensées, Dieu connaît tes difficultés, Dieu connaît aussi tes joies, tes peines, tes doutes, tes douleurs. Dieu connaît tout de toi. Et elle nous a incité aussi à reconnaître et à se ressouvenir que ce Dieu qui connaît tout de nous est notre Père céleste, celui qui prend soin de nous. Et donc, de nous rapprocher toujours un peu plus de lui. Et moi, je vais continuer ce matin en lisant Genèse chapitre 4, du verset 6 au verset 8. Adam connut Ève, sa femme. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est la vie, ta parole est la vérité. Ta parole est une épée, ta parole est un marteau. Que ce matin, Seigneur, la parole de Dieu, vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, vienne dans nos vies, Seigneur. Renouer, Seigneur, notre unité avec toi, notre réconciliation avec toi, Seigneur, selon que nous sommes plus ou moins éloignés de toi. Je prie que cette parole vienne nous rappeler, Seigneur, tes consignes dans le nom de Jésus et ton amour pour nous, notre attachement à Dieu. Seigneur, étends ta main sur moi, que ton esprit me conduise. Je sais que tu es là, Seigneur. Alors je te dis merci dans le nom de Jésus. Amen. Genèse, le chapitre 4, du verset 6 à 8. Alors, la Bible déclare, on commence par le 1. Oui, c'est ça. Dans le chapitre 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Elle fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Continuons. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Alors, nous allons nous arrêter là, pour l'instant. On continuera tout à l'heure. Donc, nous lisons ici que l'Éternel porta un regard favorable sur Caïn, ou plutôt sur Abel et sur son offrande. Et il porta un regard défavorable sur Caïn et sur son offrande. Et donc, je fais un lien avec la prédication d'Élise qui nous disait la semaine dernière, effectivement, que le regard de Dieu est sur nous. Et je veux appuyer cette pensée pour dire ce matin, quel est le regard de Dieu sur toi ce matin? Est-ce que le regard de Dieu sur toi ce matin est un regard favorable? Est-ce que le regard de Dieu sur toi n'est pas un regard favorable? Parce qu'en vérité, Dieu nous voit, mais il ne nous voit pas tous de la même manière. Et cela est une vérité. Le regard de Dieu sur nous n'est pas le même pour tout le monde. Tout dépend de notre relation avec Dieu, de notre communion avec Dieu, de ce que nous sommes, de ce que nous faisons. On est tous enfants de Dieu. Nous avons la grâce de Dieu, nous avons la vie éternelle par la grâce de Dieu. Mais chaque jour, quand nous marchons sur cette terre, Dieu a un regard sur nous. Et quel est ce regard? Comment est le regard de Dieu? Est-ce que le regard de Dieu sur moi ce matin, c'est de dire, voici Wilfried, mon serviteur en qui je prends plaisir? Où me dira-t-il, voici Wilfried, mon serviteur, mais en qui je ne prends pas plaisir, parce qu'il ne me fait pas plaisir, et que ce matin il s'est réveillé, il ne m'a pas fait plaisir. Quel est le regard favorable de Dieu sur moi? Puisque notre thème, c'est comment attirer la faveur de Dieu. Et pour attirer la faveur de Dieu, il faut que le regard de Dieu soit favorable. La faveur, c'est que Dieu nous est favorable. Il faut donc que le regard de Dieu sur nous soit favorable. Mais ce regard favorable ne dépend pas de Dieu. Il dépend de nous. Et la première chose que nous avons dite, c'est que pour que ce regard soit favorable, il faut commencer à changer notre atmosphère spirituelle. Ainsi, le regard de Dieu commence à devenir favorable à notre égard. Il commence à dire, ah tiens, celui-là, il est en train de changer son atmosphère. Les pensées, les paroles, les œuvres qu'il avait, il commence à les modifier. Il commence à me faire plaisir. Je change mon regard sur lui. Et là, tu attires l'attention de Dieu. Le regard de Dieu n'est plus le même. Il t'a toujours regardé, mais son regard change. Il n'est plus le regard de celui qui est triste, comme dit la parole, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vise en vous. Le regard de Dieu devient un regard fier, un regard heureux, un regard d'un père qui est fier de sa fille ou de son fils. Ainsi, le regard de Dieu devient favorable. Et ainsi, la grâce de Dieu peut encore couler sur toi plus qu'elle n'a coulé auparavant dans ta vie. Parce que tu as changé ton atmosphère spirituelle. Alors, le Seigneur te regarde d'une autre manière. C'est pourquoi il a dit à Caïn, si on peut remettre le verset 6, il a dit à Caïn, si te comportes bien, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu, Caïn? Continuons. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui, afin que mon regard te soit favorable. Si tu agis bien, Caïn, mon regard va changer sur toi.
Et pourtant, ici, on apprend que le regard de Dieu n'était pas favorable sur Caïn. Mais il dit, si tu agis bien, si tu changes ton atmosphère, et tu changes tes pensées, et tu changes ta manière de vivre, et tu changes ta manière d'agir, de parler, mon regard sur toi va changer, Caïn. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Ses désirs reviennent vers toi. Mais toi, tu as le pouvoir, tu as l'autorité de dominer sur. 2 Timothée 2, 20 à 21. 2 Timothée chapitre 2, le verset 20 à 21. Dans une grande maison, nous sommes ici dans la maison de Dieu. Une part du corps spirituel de Christ, l'église locale. Nous faisons tous partie de la grande famille de Dieu, la grande maison spirituelle de Dieu. La Bible déclare, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera. Un vase d'honneur. C'est possible d'être un vase d'honneur pour le Seigneur. Ça ne dépend pas de Dieu. Il y a des vases d'usage vil et il y a des vases d'honneur. Les deux sont devant le regard de Dieu. Le fait qu'on devienne un vase d'honneur ou un vase d'usage vil dépend de nous. Ça ne dépend pas de Dieu. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera. Mais peut-être pas encore. Mais il est possible qu'il devienne un vase d'honneur. Sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Pour attirer la faveur de Dieu, commence à devenir un vase d'honneur. On dit utile à son maître. Utile pour Dieu. Comment la faveur de Dieu ne viendrait pas sur toi lorsque tu lui es utile? Justement, il va te bénir parce que tu es utile à son œuvre. Ce qui veut dire que le vase de l'usage vil n'est pas utile à Dieu. Mais les deux vases sont tous deux dans la maison de Dieu. Et c'est une grande maison. Et il y a plusieurs vases. Si tu veux voir la faveur de Dieu, deviens un vase d'honneur. Un vase d'honneur. Philippiens, chapitre 4, verset 8 au verset 9. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Tu changes ton atmosphère. Toutes ces choses deviennent l'objet de tes pensées. Et il dit, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et quelle en est la conséquence? Est-ce qu'on peut lire ça ensemble, s'il vous plaît? Et le Dieu de paix sera avec vous. La faveur de Dieu. Et le Dieu de paix sera avec vous. Là, en fait, on ne parle pas que le Dieu de paix n'est pas avec vous. Non, comme on l'a dit, Dieu est au milieu de nous. Mais quand il est avec vous, ça veut dire que dans tout ce que vous allez faire, Dieu va bénir. il sera avec vous. Sa bénédiction va vous poursuivre. Nous cherchons à être bénis, mais les secrets sont dans la parole. Et le Dieu de paix sera avec vous, comme un Dieu puissant, comme un puissant guerrier dans vos combats, comme celui qui vous délivre, comme celui qui ouvre les portes fermées de vos vies, comme celui qui répond à vos prières, comme celui qui vous guérit de vos maladies, comme celui qui donne du travail, comme celui qui donne du mariage, de l'enfantement. Quel que soit ce dont vous avez besoin, Dieu vous bénira, car il sera avec vous.
Luc 11, de 14 à 26.
Jésus chassa un démon. Nous avons parlé ici la dernière fois de ce monde spirituel qui nous entoure et du diable qui est là et qui vient au milieu des enfants de Dieu. Et du diable qui est là et qui agit dans nos vies contre la volonté de Dieu et qui veut toujours nous éloigner de Dieu par rapport aux œuvres qu'il fait dans nos vies. L'apôtre Paul dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Nous savons ce qu'il cherche. Nous savons ce qu'il veut, c'est nous éloigner de Dieu. Jésus chassa un démon, qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul ? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si, c'est par le doigt de Dieu, que je chasse les démons. Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Nous chassons les démons par le doigt de Dieu. Nous chassons les démons par l'Esprit de Dieu. Et c'est la manifestation que le royaume de Dieu est au milieu de nous. C'est la manifestation que la grâce de Dieu est avec nous, et en nous, et agit en nous. Continuons. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison et qu'il possède est en sûreté, et ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte et lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confie et il le distribue ses dépouilles. Continue. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Continuons. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouva point, il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve balayée, ornée. Continuons. Alors il s'en va et il prend sept autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Et c'est l'histoire d'un homme, c'est Jésus qui parle ici. Il a chassé les démons d'un homme, on l'a accusé de le chasser par le doigt de Satan. Il a dit non, c'est par le doigt de Dieu, parce que Satan ne peut pas chasser Satan. Et puis après, il a commencé à raconter une histoire. Il a dit, Lorsque un esprit impur sort d'un homme, il va dans les lieux arides. Il ne trouve pas de repos et il s'est dit, ben, je veux retourner dans ma maison où j'étais avant. J'étais tellement si bien. Et quand il arrive, il trouve que la maison, elle est balayée, ornée. Et dans Matthieu, le même verset, on dit, il trouve la maison vide. Vide. Balayée, ornée, vide. On précise cela dans Matthieu. Vide. Et il dit, je retournerai. Il s'en va. Il prend 7 autres démons plus méchants que lui. Et il revient. Et la Bible déclare que la condition de cet homme est pire que celle qu'il avait avant. Sachez que lorsque nous changeons notre atmosphère spirituelle, nous prenons autorité, nous chassons les démons, nous mettons notre vie en règle. Bien-aimés, si après avoir fait ça, on ne s'attache pas au Seigneur, on ne continue pas à marcher avec Dieu, on ne se dit pas que non, maintenant que j'ai rangé toutes mes affaires, il faut que je continue à les ranger. J'ai fait une prière d'autorité, j'ai chassé les mauvais esprits, je suis arrivé à l'église, on a prié pour moi, j'allais bien, je suis rentré chez moi, j'étais content. Pendant la semaine, j'ai écouté la louange, la prédication, j'étais heureux. 4 jours, 5 jours, je commence à me décourager et puis je suis retourné à mes mauvaises habitudes. Et si on dit que le démon est arrivé, il a trouvé la maison vide. L'homme plus fort, Jésus a parlé d'un homme fort qui était dans une maison, et d'un homme plus fort qui est venu le lier et le chasser. C'est-à-dire qu'on a lié tout ce qui était pour nous une mauvaise atmosphère, on les a chassés de la maison, l'homme fort qui le fait, c'est Jésus. Ou plutôt, je dirais, l'homme plus fort qui le fait, c'est Jésus. Sauf que c'est Jésus, l'homme plus fort, qui est venu chasser cette mauvaise atmosphère, on ne le garde pas auprès de nous. La Bible déclare qu'il vient et il trouve la maison ornée, propre, mais vide. Où est l'homme fort? Tu as prié, tu as changé l'atmosphère, mais tu n'as pas gardé la communion avec Dieu chaque jour, chaque instant, chaque heure. L'homme fort est venu. L'homme plus fort, pardon, est venu. Il a terrassé l'homme fort. Il l'a chassé. Mais tu n'as pas fait une place favorable à Jésus qui fait qu'il n'est pas resté demeuré chez toi. La maison est propre, elle est rangée. Mais tu as dit, bon, maintenant que tout va bien, merci Seigneur, je continue ma vie. Mais quand l'homme fort, le démon, le diable, la mauvaise atmosphère est arrivée, l'homme très fort qui était là, et qui m'a fait partir, n'est plus là. Jésus, il n'a plus cette première place dans le cœur. Alors le démon dit, mais la porte est ouverte, je peux encore revenir. Mais comme je sais qu'il y a un homme très fort, eh bien je ne serai pas seul. Je vais reprendre 7 autres démons. Ils viendront avec moi. Alors on sera beaucoup plus fort qu'avant. Lorsqu'on change notre atmosphère, bien-aimé, il faut garder, demeurer dans la présence de Dieu et conserver notre atmosphère spirituelle. Il faut la conserver. Parfois, on vient à l'église, on prie pour nous, on fait beaucoup de choses, et même seul à la maison, on se dit, bon, allez, il faut que je range ma vie. Et puis, 1 semaine, 3 semaines, 4 semaines plus tard, ça va. Parce qu'on n'a pas conservé l'homme plus fort en nous. On n'est pas resté attaché à l'homme plus fort. Jésus. Rapidement, Jean 14, 21 à 23. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. La suite dit, nous viendrons à lui
et nous ferons notre demeure chez lui. Notre demeure. On restera avec lui. Notre demeure. Pas de passage. Notre demeure. Parfois, Jésus vient dans nos vies de passage. Vous voyez ? Il est là, mais comme s'il n'est pas là. Il est de passage. Et quand on a nos problèmes, « Oh, Jésus !» Mais il est juste de passage. On n'a pas conservé cette intimité. On ne l'a pas entretenu. On ne l'a pas attrapé. « Reste avec moi, Seigneur. » Et c'est quand ça ne va pas qu'on se remet à la prière. Quand ça ne va pas, on fait un jeûne, rapidement. Quand ça ne va pas, « Oh, frère, ça ne va pas, prie pour moi. » Quand Dieu vient chez un homme, quand Jésus vient chez un homme, son objectif, c'est de demeurer dans cet homme. Ce n'est pas d'être de passage. C'est de prendre la première place et de s'installer. L'homme fort ne pourra plus revenir. L'atmosphère spirituelle ne peut plus changer en une mauvaise atmosphère spirituelle. Parce qu'on reste au top. On désire le top. Et on fait le sacrifice qu'il faut. En vérité, lisez la parole de Dieu. Aucun homme de Dieu n'est resté au top sans sacrifice. Sans tous les jours se remettre en cause. Sans tous les jours passer sa vie au crible. Sans tous les jours lâcher tout ce qui n'est pas bon pour Dieu et monter à chaque fois de niveau. Celui qui ne progresse plus, bien-aimé, il redescend. Il n'y a pas un endroit où on s'arrête. Si tu t'arrêtes, c'est que finalement tu es en train de régresser. Toujours au top, toujours aller plus haut, toujours aller plus loin, de gloire en gloire. Mais quand on prend ces versets de gloire en gloire, on parle toujours des bénédictions matérielles. Mais dans le spirituel, il faut aller de gloire en gloire. Monter de niveau à niveau. Si tu lisais la Bible 3 fois par jour, 1 an plus tard, où est-ce que tu en es? Si tu priais pendant 1 heure, 2 ans plus tard, où est-ce que tu en es? Si tu faisais une veillée de prière et qu'après 1 heure, tu commences à somnoler, 2 ans plus tard, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu peux quantifier une progression spirituelle dans ta vie? Je peux te dire, oui, j'ai connu le Seigneur il y a quelques années. Ah, aujourd'hui, 10 ans plus tard, oui, je peux voir la route que j'ai faite. Je peux voir ma progression. Et ceux qui te connaissent peuvent dire, oui, on t'a connu il y a 1 an. Aujourd'hui, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans plus tard, on a vu l'œuvre de Dieu dans ta vie. On a vu des changements, on a vu des renoncements, on a vu des transformations, on a vu des positions. Au fur et à mesure que le temps passe, Dieu te transforme de gloire en gloire. Parce que tu restes attaché à lui. Jean 15, 4 à 7. Demeurez en moi, on connaît ces passages, et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez non plus. En fait, on peut faire tous les efforts qu'on veut. C'est Jésus, c'est lui qui nous rend capables. Personne ne peut porter du fruit s'il ne reste attaché au Seigneur, en le cherchant jour et nuit. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Continuons. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quel est ton degré d'intimité avec Dieu? Quelle est la place que tu donnes au Seigneur dans ta journée, tes 24 heures chrono? Quelle est la place de Dieu? Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous avons reçu le Seigneur, il est avec nous, mais partout où nous allons, est-ce que nous avons cette communion avec Dieu?
Toujours, Seigneur, je sais que tu es là. Avant de parler, je réfléchis. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise? Avant de réagir, Seigneur, que ferais-tu à ma place? Je veux sortir le matin, je me lève. Seigneur, j'ai mon planning, mais je me soumets à ta volonté. Dans tout ce que tu fais, Jésus au centre. L'apôtre Paul dit, si je vis, je ne vis plus pour moi-même. Je vis pour celui qui est mort et ressuscité pour moi. Je ne vis plus pour moi-même. Le matin, je me réveille, je cherche la volonté de Dieu. Je sais que je dois aller au travail. Je dis, Seigneur, j'y vais. C'est toi qui me l'as donné. Mais quel est l'objectif aujourd'hui, à part remplir la mission qui est sur mon cahier, mon agenda? Quel est le plan, le projet que tu as pour ce matin, Seigneur? Je cherche la volonté de Dieu. Je reste connecté au Seigneur. Quelque chose va se passer. Dieu aime ceux qui ont soif de lui. Dieu répond à ceux qui ont soif. Dieu répond à ceux qui ont soif. On va lire rapidement un passage qui est assez long, mais j'aimerais bien que l'on lise. Deux Rois, chapitre 2, verset 1 au verset 15. Je vais aller vite sur ce passage. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici. On va voir l'exemple d'un homme qui est attaché à un autre homme parce qu'il sait que quelque chose va se passer. Si je me détache de lui, je perds une bénédiction. Je reste attaché à lui, quelque chose va se passer. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Continuons. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi. Taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici. Je te prie. Car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te laisserai point. Je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent ensemble à Jéricho. Continuons. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi. Taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici. » Élie insiste, il ne veut pas qu'Élisée reste avec lui. Mais Élisée sait que j'ai une bénédiction à prendre ici. Je ne le lâcherai pas. Vous connaissez l'histoire de celui qui a suivi Jésus partout. « Fils de David, aie pitié de moi. » On lui a dit, « Tais-toi, le maître n'a pas ton temps. » Il a continué à crier. Fils de David, aie pitié de moi. On lui a dit, tais-toi, Jésus continue à marcher. Pendant qu'il criait, Jésus s'occupait de lui. Jésus marchait. Mais lui, il criait, fils de David, aie pitié de moi. Il continuait, il avançait. On lui disait, tais-toi, il continuait. Ici, Élisée fait la même chose. Il sait qu'il y a une bénédiction attachée à Élie. Il y a une bénédiction attachée au Christ. Il y a une vie attachée au Christ. Il y a une gloire attachée au Christ. Il y a une résurrection attachée au Christ. Il y a des victoires attachées au Christ. Alors, il dit ici, et ils poursuivirent tous les deux leur chemin. Continuons. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là. Et ils passèrent tous les deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, quand tu t'attaches à Dieu, Dieu voit combien de fois tu es attaché à lui. Dieu voit combien de fois tu le sers, combien de fois tu es sérieux, combien de fois tu refuses les compromis dans ta vie, combien de fois tu cours comme Joseph. Je laisse mon manteau, pardon, je ne veux pas la publicité, je ne veux pas, je m'en vais, je fuis. Joseph, femme de Potiphar, devant lui, lui demande de faire l'amour avec lui. Joseph, homme de Dieu, préfère laisser ses vêtements et fuir. Dieu voit que cet homme est attaché à moi. Dieu voit que cet homme fait tout pour me plaire. Fait tout pour que je lui regarde d'une manière favorable. Mais comment l'Éternel ne va-t-il pas bénir un tel homme? Qui fait tout pour le Seigneur? Qui fait tout pour la gloire de Dieu? Comment Dieu peut-il rester insensible? Il est impossible que Dieu reste insensible à un tel homme. Et ici, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Oh! Voyez-vous Dieu qui s'approche de vous et vous dise, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Vous savez que Dieu l'a déjà fait. Dieu est venu chez Salomon. Il lui dit, Salomon, demande. Demande ce que tu veux, demande, fils de David, demande, je te donnerai à cause de ton père, demande. La faveur de Dieu, elle descend à ce moment-là, quand Dieu vient te voir lui-même et il te dit, demande ce que tu veux. Pourquoi? Parce qu'il a vu combien tu es attaché à lui. Combien tu es capable de quitter les amis pour le Seigneur. Combien tu es capable de te détacher des personnes qui te polluent la vie pour le Seigneur. Combien tu es capable de fermer ta bouche quand il ne faut pas parler pour le Seigneur. Combien tu es capable, lorsqu'on te maltraite, on t'injurie, de dire « Seigneur, pardonne-leur ». De voir comment tu es capable. Est-ce que ça ne va pas de flécher le genou, de crier au Seigneur, pas pour ta vie, mais pour les autres. Voir un frère qui souffre, Seigneur, quand tu es capable de donner 10 euros à quelqu'un parce que tu as vu qu'il est dans la souffrance et j'ai 10 euros, je peux lui donner. Il y a des frères ici, il y a des sœurs ici qui ont hébergé des personnes. J'en connais, moi-même je l'ai fait. Je n'avais pas une grande maison, j'étais en résidence universitaire. J'ai croisé un jeune chrétien sur la route. Je ne le connaissais pas. Il ne me connaissait pas. J'étais en résidence universitaire. Je l'ai croisé. Il avait ses valises. Bonjour, bonjour, tu vas où? Je viens d'arriver, je ne sais pas trop, je n'ai pas d'hébergement. Ok. Dieu m'a dit, prends-le chez toi. Je l'ai pris chez moi. Il est resté chez moi au moins pendant 5-6 mois. Jusqu'à ce qu'il ait trouvé son logement. Je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas. Quand Dieu voit un homme qui fait des choses pour la gloire de Dieu, pour les principes du royaume, qui refuse une vie sexuelle parce qu'il sait que non, je ne suis pas marié, Seigneur, mon corps t'appartient, je ne veux pas le souiller. Quand je serai marié, j'aurai les plaisirs du mariage. Dieu voit, hein, pour ma gloire, il est capable de refouler ses désirs charnels à cause de mon nom. Dieu ne peut-il pas bénir une telle personne? La faveur de Dieu peut-elle pas reposer sur celui qui se sacrifie pour le Seigneur, qui se donne comme une offrande vivante, sainte et agréable à Dieu, qui fait de sa personne un culte raisonnable, comme dit la parole. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Quand on change tout pour le Seigneur, il vient et nous dit, demande, demande. Et à ce moment, la faveur du Dieu descend sur toi. À ce moment, la faveur de Dieu descend sur toi. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Et Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Continuons. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Parfois, on demande à Dieu des choses difficiles. Pas difficiles pour Dieu, parce qu'à lui, rien n'est impossible. Mais difficiles même par rapport à toi. Il dit, ah, Élisée, tu pourras porter ma double portion. C'est difficile que tu la portes. Il dit, mais si tu me vois, c'est-à-dire que si tu continues à rester attaché à moi, si tu me vois, si tu restes encore avec moi, pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Continuons. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regarda et cria, « mon père, char d'Israël et ses cavaleries !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. C'était la tradition à l'époque. Lorsqu'on était dépassé par un événement, on déchirait ses habits. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Continuons. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent, ça et là, et Élisée passa. Un miracle. Parce qu'il est resté attaché. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Quand dira-t-on que l'esprit du Seigneur repose sur toi? Parce qu'on verra les œuvres que tu fais. L'esprit du Seigneur repose sur toi. À cause des œuvres de Dieu. Vous savez, bien-aimé, Dieu n'attend que ça. Il dit, je cherche, qui enverrai-je? Dieu n'est pas avare de bénédiction. Dieu n'est pas avare de puissance et de force. Dieu n'est pas avare de grâce. Non, mais il cherche un homme, une femme, capable de se lever pour sa gloire. Qui enverrai-je? Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît?